Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets si importantes à comprendre et à analyser dans notre monde où toutes les choses bougent tellement vite. On parle bien sûr de ce qui se passe en ce moment, mais en général, la tech, c'est important à comprendre. Et je vais vous dire un truc. Regardez, venez tout près là, je vais vous avouer un truc, je vais vous dire un secret. J'ai parlé à plusieurs personnes ces dernières semaines qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans la tech et qui avaient des décisions importantes à prendre dans ces domaines. Et ils n'écoutaient pas le Rendez-vous Tech, et je peux vous dire que les questions qu'ils se posaient, c'était des questions que nous, on se posait il y a 3, 5, 10 ans, et qu'ils commençaient à partir dans des directions complètement erronées, dont on sait qu'elles ne donnent rien de bon. Et franchement, je me suis dit, mais il faut... Alors, soit cette émission, soit une autre, mais il faut se tenir au courant, quoi. C'est pas possible de pas savoir, de pas avoir les bases de l'économie. C'est pas possible d'avoir, de pas avoir les bases de la tech de la même manière, les bases de la politique. Un minimum, c'est de la culture générale importante pour comprendre la société. Et je me dis, le Rendez-vous Tech ou un autre, mais moi j'aime bien le Rendez-vous Tech, indispensable dans le monde aujourd'hui. Donc, écoutez, conseillez-le. Je pense que c'est un service d'utilité publique. Bon, je me fais un petit peu, je me brosse le poil dans le sens du poil moi-même. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous parler de plein de choses, Gaël Girardeau. Comment ça va, Gaël ?
Bonjour Patrick, écoute, ça va bien et je vais continuer à te brosser dans le sens du poil. Je trouve tout à fait que c'est indispensable et j'en parle toujours à tout le monde, tellement c'est utile. Le Rendez-vous Tech est de plus en plus. Tu vas voir, ça va exploser.
Ouais, bah écoute, c'est sûr que... Alors, je ne sais pas si c'est de plus en plus dans un avenir à la moyen terme ou à long terme, mais en tout cas, en ce moment, c'est certain. Alors, petit mot sur le programme avant qu'on se lance. On va parler de trucs très sérieux en fin d'émission. Il y a plusieurs choses à dire. D'une part, il y a des gens qui m'ont demandé de faire des émissions plus courtes parce qu'ils ont moins de temps. Donc, on va essayer de faire un petit peu plus court. Si vous avez beaucoup de temps et que vous préférez des émissions plus longues, bah, venez me le dire. Mais pour le moment, j'ai entendu de plusieurs personnes qu'une émission plus courte serait plutôt bénéfique. Donc, on va essayer de faire ça. Et on va aussi essayer de faire en sorte que les sujets sérieux, comme notamment les apps de traçage, on va les faire en fin d'émission. Et il y a des choses qui se sont passées dans le monde des apps de traçage depuis la semaine dernière. Vous vous souvenez, à la fin de l'émission, j'avais ajouté un petit segment pour dire « Oula, attendez, il se passe des trucs, on verra la semaine prochaine quand on aura eu le temps d'analyser ». Et en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, l'app Stop Covid est un petit peu, comment dire, on va faire le point tout à l'heure. Je mettrai dans les notes de l'émission le moment, le time code auquel on va en parler. Donc, vous pourrez y aller directement si ce dont on va parler avant ne vous intéresse pas. Mais pour les gens qui sont un petit peu, qui ont fait l'overdose des sujets tellement sérieux comme Covid, et etc., on va parler d'autres choses un petit peu plus cool maintenant en début d'émission. Est-ce que ça te va comme programme, Gaëlle ? T'es partante ?
Mais oui, commençons avec le sourire, avec des choses un peu plus légères, avec grand plaisir.
Et j'aimerais du coup faire un... Je remercie toujours les auditeurs en début d'émission et en particulier les Patriotes. Et là, j'aimerais prendre un moment, un deuxième moment un petit peu solennel pour remercier vraiment, vraiment du fond du cœur ceux qui choisissent de soutenir l'émission et qui continuent à se lancer, à être des premiers patriotes pour la première fois dans cette période qui est un petit peu compliquée parce que, évidemment, ça m'aide énormément et il y a des gens qui font ce choix quand même. J'imagine des gens qui le peuvent, hein, bien sûr. Je veux jamais que ça soit un effort indu pour vous, mais vraiment, vraiment du fond du cœur, il y a des moments qui sont pas faciles, qui sont un peu stressants pour nous tous. Et bon, au fur et à mesure, on en parlera tout à l'heure, que les choses s'allongent, ça devient de plus en plus compliqué. Et je peux vous assurer que le fait de ne pas avoir à craindre pour le financement des émissions et donc mes revenus, grâce à tous ceux d'entre vous qui soutiennent, c'est ce stress en moins. Donc vraiment, là, c'est un merci encore plus sincère que je ne le fais d'habitude, en tout cas encore plus profond, parce que à côté de tout le stress qui existe, celui-là, grâce à vous, il est largement réduit. Donc un grand, grand merci à vous tous. Et de manière plus traditionnelle, un merci aux Patriotes pour cette émission spécifique: Simon Givre, Lionel Belnet, Yacine Vache, Guillaume Bataille, Thibaut Declerc, Florian Cody, Anthony, Yann Bajot et Gecko Splinter. Merci à vous tous et à tous ceux qui font le choix de soutenir l'émission. Alors, on va commencer avec un petit peu de sourire et cet événement qui a eu lieu dans Fortnite. Vous connaissez, hein, bien sûr, Fortnite. J'ai tendance à expliquer toujours les choses depuis le début quand je parle de sujet, parce que même si certains d'entre vous connaissent, d'autres écoutent peut-être ça pour la première fois ou ne connaissent pas ce sujet spécifique. Donc, c'est vrai que je réexplique. J'espère que vous m'excuserez si ça fait répétition pour vous. Mais Fortnite, c'est le jeu vidéo des, 10-15 ans. Et bien sûr, comme tous les jeux vidéo, il y a des gens de différents âges. Mais c'est la coqueluche des collèges. Fortnite, c'est un jeu de tir qui est hyper, hyper populaire. Et il y a, en plus des parties classiques, il y a souvent des événements culturels, je pense qu'on peut vraiment les appeler comme ça, dont des concerts. Et il y en avait eu un il y a quelques mois avec un DJ qui s'appelle Marshmallow, qui avait été hyper populaire, qui avait réuni une dizaine de millions de personnes. Eh bien, ils ont réitéré l'exploit avec 12,3 millions de personnes pour le premier concert de Travis Scott, un rappeur, qui a donc réuni 12,3 millions de personnes pour son concert dans le jeu. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de ces trucs. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un jeu dans lequel, en général, quand il n'y a pas d'événement spécial, eh ben, on se connecte, on est mis dans une partie avec 99 autres joueurs et on essaye de tous les abattre. C'est un look très cartoon, hein, donc ce n'est pas trop violent. On essaye de tous les abattre et c'est le dernier qui reste qui a gagné. Sauf que quand il y a un événement de ce type, ça peut prendre différentes formes, mais en l'occurrence pour un concert, on se connecte au moment où le concert aura lieu. Il y avait en tout 5, entre guillemets, dates sur un week-end, donc 5 horaires, où on se connectait. Et 10 minutes avant, au lieu de se connecter au jeu lui-même classique, eh ben on arrive dans une zone où il n'y a rien de spécial à faire. Mais quand le concert commence, eh ben il y a un avatar géant du chanteur qui apparaît au fond dans l'espace de jeu, et au fur et à mesure que les 10 minutes de concert se déroulent, eh ben, il y a toutes sortes d'effets, et notre personnage, on peut le déplacer, on peut faire des mouvements, des animations différentes pour montrer son appréciation de ce qui est en train de se passer. On peut danser, on peut faire plein de choses, et le concert, en fait, est une expérience qui est dans le cadre du jeu, bien sûr, mais je dirais presque extrasensoriel. Je sais pas, je sais que tu l'as regardé, toi, Gaël, c'est pour ton travail également que tu dois te tenir au courant de ces choses-là, mais c'était vraiment une expérience un petit peu space qu'ils ont proposé chez Fortnite.
Écoute, ouais, c'est, mais alors pour le coup, j'avoue que je ne vais pas sur Fortnite,
mon fils pour y jouer en général. Fortnite, ouais.
Voilà, je n'y joue pas. Par curiosité, je suis allée voir, alors donc pas du tout en direct, mais et comme je joue pas, c'était sur des vidéos sur YouTube. Mais j'avoue avoir été bluffée par la créativité, et je trouve ça extraordinaire d'avoir créé ça. Sincèrement, je suis bluffée. Je comprends qu'il y ait eu 12 millions de personnes en même temps pour la première, parce que c'est un gros événement. Et puis, c'est d'autant plus en ce moment, c'est peut-être la nouvelle façon d'aller à un concert. Alors moi, j'avoue avoir été, je l'ai dit, un peu honteusement, j'attendais la suite, j'avais pas compris que c'était que 10 minutes. J'attendais un concert d'une heure, bêtement, mais ça sera peut-être le futur, hein, effectivement, que ce soit des concerts vraiment plus longs, peut-être à plusieurs, pas un seul chanteur, enfin des vraies prestations de concerts à l'intérieur, pourquoi pas, mais bluffant effectivement pour l'expérience.
Alors, pour décrire un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas, la manière dont ça se passe, c'est qu'on est dans un espace un petit peu classique, une grande, on va dire, allez, on va dire prairie, pour essayer de décrire ça. Et puis, au fur et à mesure que le concert se déroule, on est transporté sous l'eau, dans l'espace, on va pouvoir, entre guillemets, nager dans l'espace. Et puis, il y a cet immense avatar de Travis Scott qui est en train de chanter, qui a les animations de chant et qui va avoir tout plein d'effets pyrotechnique, psychédélique, c'est vraiment un spectacle. Et quand tu disais, c'est peut-être un moyen de suivre un concert, surtout aujourd'hui en confinement, mais peut-être à terme, alors c'est pas que ça va, allez, les quatre vieux au fond qui commencent à râler, moi, à mon époque, on allait dans des vraies salles de concert, ça veut pas dire que ça va forcément remplacer, mais c'est une expérience sociale ou en tout cas personnelle et culturelle hyper intéressante qui est véhiculée par un jeu vidéo ultra populaire. C'est certainement quelque chose de différent et d'intéressant, j'insiste sur ce point. C'est pas juste, oh bah c'est marrant, ils ont mis un morceau de musique dans le jeu et on l'a écouté pendant qu'on était dans le jeu. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Non, il y a une vraie créativité, enfin, il y a un vrai travail assez extraordinaire. Encore une fois, c'est une nouvelle façon de faire les choses. C'est une nouvelle expérience. Comme tu dis, ça remplacera jamais un concert, mais en attendant, quand on sait que les concerts, ça sera peut-être pas pour tout de suite, même déconfiné, qu'on y retournera. Donc, bah, en attendant, ça pourra au moins faire l'affaire. Et puis, bah, pour les gens aussi, il faut pas oublier qu'il y a quand même un concert, ça coûte cher. Est-ce que c'est aussi un moyen d'amener la culture musicale autrement? Voilà, encore une fois, ça remplace pas, mais ça fait, c'est un bon compromis en tout cas, et avec un nouveau type de créativité. Donc, moi, je dis bravo.
C'est intéressant parce que c'est un petit peu du gagnant-gagnant-gagnant, c'est gratuit pour tout le monde. Fortnite bénéficie parce que ça ajoute à sa popularité. Travis Scott s'est certainement fait des millions de nouveaux fans qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Il y a de la vente de merchandising en jeu, donc virtuel et physique, si on veut ensuite. C'est quelque chose de qui est effectivement une évolution intéressante et... c'est pas tous les jeux qui peuvent se permettre ce genre de choses, et c'est pas toutes les sociétés qui ont l'intelligence de faire ce genre de choses. Le cadre de Fortnite s'y prête bien, et Epic, la société qui a développé le jeu et qui le gère, a une intelligence dans le marketing de sa boîte qui est pleine d'inventivité, et on peut tout à fait imaginer d'autres. D'ailleurs, il y a eu des événements liés à des films qui étaient moins ambitieux peut-être, mais surtout liés à des films qui sortaient au cinéma, avec des petits événements spécifiques dans le jeu. Mais on peut imaginer d'autres choses encore. La créativité est vraiment sans limite dans ce domaine. Donc, ouais, c'est très, très intriguant en tout cas.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, oui. Et Fortnite ne va pas disparaître de sitôt. Je ne pense pas. On va vous parler un petit peu d'Apple, hein, bien sûr. On ne va pas se priver. Il y a des rumeurs, comme toujours. Alors, les rumeurs d'AirPods 3 qui seraient en fait des AirPods Pro sans annulation de bruit. Donc, si vous attendez pour éventuellement en acheter, voilà de quoi, à quoi ça correspondrait. Ces fameux AirPods Pro Lite seraient la même forme, donc avec le petit embout qui fait que ça s'adapte à vos oreilles, mais il n'y aurait pas de fonction d'annulation de bruit. Le prochain iPad Air pourrait avoir un Touch ID sous l'écran, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de Face ID, mais un Touch ID sous l'écran. Et à propos de Touch ID, il y a une rumeur selon laquelle l'iPhone 12 pourrait avoir un Touch ID. Alors, Touch ID et Face ID, du coup, on pourrait avoir Apple qui se vante d'avoir le système le plus sécurisé au monde, parce que on pourrait choisir le Touch ID ou le Face ID ou faire les deux en même temps. Et là, du coup, ça veut dire qu'on est comme dans les films, présenter votre empreinte digitale et présenter votre visage, et ça permet de, et peut-être même avec l'iris spécifiquement, et donc ça permet de déloquer uniquement si on a toutes ces choses et le code en plus. Non, peut-être pas, mais c'est intéressant pour le prochain iPhone. Et puis, quand on parle du prochain iPhone, il y a aussi le fait que la 5G millimétrique ne serait pas disponible dans les iPhones français, dans les prochains iPhones français. La 5G millimétrique, qui est la 5G la plus rapide, mais aussi la plus courte portée, la plus courte distance. Donc, il faut vraiment être juste à côté de l'antenne pour que ça porte. Et ben, elle serait disponible qu'aux États-Unis. Donc, on aurait la 5G classique, qui n'est pas beaucoup plus rapide que la 5G, que la 4G, en fait. Donc, bon, on verra ce que ça donne, effectivement, quand ils l'annonceront. Et à propos de l'annonce, du coup, l'annonce et la production, elle risque d'être décalée un petit peu d'un mois. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne peuvent pas produire, mais ils décalent la production. Oui, pardon, je disais l'annonce, mais je parle de la production. Ils décalent parce qu'ils pensent qu'il y a moins de demandes que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Donc, ils ont besoin de produire moins. Donc, ils décalent la production. Elle ne commence qu'un mois plus tard par rapport à l'habitude. Donc, voilà pour les rumeurs AirPods. iPad et iPhone. Il y a quelques rumeurs Apple en plus du côté des Mac et de la programmation. Avant ça, j'ai envie de te poser la question. Tu es plutôt Team Touch ID ou Team Face ID, toi, Gaëlle ?
Alors, écoute, comme je viens de changer d'iPhone, j'ai enfin laissé tomber mon vieil iPhone SE. Et je suis passée au 11 Pro, donc ça y est, j'ai découvert le Face ID dans la vie de tous les jours. J'avoue que c'est quand même bien pratique, le Face ID. Et donc, là où avant j'étais plutôt Touch ID, je viens de passer Pro Face ID.
Ah, donc tu préfères, d'accord. Mais dis-moi, t'étais pas une fan des petits téléphones, toi ? C'est pour ça que t'avais ton SE ?
Si, c'est une horreur. Hein, c'est une horreur, il y a beaucoup de... C'est affreux. Mais mon équipe dev m'a... Non, mon SE... Tester,
oula, ça coupe. Qu'est-ce qui se passe ? Tu disais, oui, ton équipe de dev voulait que tu testes. D'accord. Ah oui, il faut tester sur des appareils modernes, madame.
C'est ça.
Bon, donc voilà pour les rumeurs du côté de chez Apple. Est-ce que t'as des AirPods, du coup ?
Non, je n'ai pas d'AirPods. J'aime pas ça.
Eh bien, tu les as déjà testés ?
Oui, j'ai déjà testé.
Ah, d'accord. J'ai Donc, tu fais testé. Partie des rares qui ne se rangent pas sous la bannière des AirPods. D'accord, je comprends. D'autres choses, on parlait de développeurs. D'une part, les premiers Mac avec processeur ARM développé par Apple pourraient arriver en 2021. Comme on en avait déjà entendu parler, il s'agirait d'une version modifiée du processeur A14 qui serait dans le prochain iPhone, donc l'iPhone 12 qui va être annoncé là en septembre a priori. Et il serait gravé en 5 nanomètres, donc il serait modifié, sans doute avec, vous savez, les iPhones ont généralement plusieurs cœurs, certains cœurs très rapides pour les opérations actives, et certains cœurs plus économes en énergie, donc un peu plus lents, pour les opérations moins actives et les opérations de tâches de fond. Et il pourrait s'agir d'un processeur de ce type, mais uniquement avec des cœurs très actifs. Parce que bien sûr, quand on a un ordinateur de bureau, on n'a pas autant de préoccupations sur les quelques milliampères-heures qu'on va consommer quand on a un processeur qui consomme un petit peu plus. Donc, c'est encore une confirmation de ça. Il y a une autre confirmation intéressante, ou plutôt, là, c'est une rumeur, c'est des confirmations de rumeurs. Xcode pourrait arriver sur iPad et potentiellement sur iPhone aussi. Qu'est-ce que c'est Xcode ? C'est l'outil qui permet de développer des programmes sur Mac et iPad, iPhone. Donc, ça développe des programmes, des apps pour les appareils sous iOS ou iPadOS également. Et c'est intéressant parce que si cet outil arrive sur iPad, ça pourrait... C'est symbolique, hein, mais l'une des choses qu'on utilise souvent, l'une des caractéristiques qu'on utilise souvent pour décider est-ce que une machine informatique est un ordinateur ou pas, l'un des tests, c'est est-ce qu'on peut programmer dessus des applications qui seront utilisées sur cet appareil ? Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas le cas des iPads. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas forcément des ordinateurs, mais c'est un test, en fait, qui est assez utilisé. Et du coup, si Xcode arrive sur iPad, ça voudra dire qu'on pourra programmer des applications directement sur l'iPad. ce qui pourrait le mettre dans cette catégorie un petit peu théorique des machines qui sont effectivement clairement des ordinateurs. Et c'est vrai que ça joue. Si on ne peut pas programmer une app sur cet appareil, eh ben, est-ce que c'est vraiment un ordinateur ? Oui, on peut dire oui, mais il y a quelque chose qui manque. On a besoin d'autre chose pour l'utiliser dans l'écosystème en autonomie complète. Et ben là, ça comblerait cette lacune. Ça serait intéressant et ça pourrait annoncer aussi l'arrivée d'autres logiciels très pro comme Final Cut de montage ou Logic pour le montage audio, en fait. Oui, tu allais dire quelque chose, pardon.
Oui, non, j'allais dire, en fait, pour moi, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai surtout le sentiment qu'en général, si on ne programme pas sur un iPad, et alors là, je resterais perplexe si ça arrive sur iPhone, c'est plus une question de taille d'écran que de capacité réelle. Tu le vois, hein, les devs, en général, ils aiment bien avoir trois écrans qui sont géants, et c'est plus une raison de taille d'écran, parce que des lignes de code, c'est toujours... c'est déjà petit. Pour moi, ça se joue plutôt sur une taille d'écran que sur autre chose, mais peut-être.
Je pense qu'il y a de ça, oui. Mais peut-être, tu sais, on peut brancher avec sur un iPad Pro, on peut brancher un écran externe. Peut-être que c'est là que viendrait la subtilité. Peut-être.
Non, mais sur l'iPad, à la limite, j'entends. Je te dis quand je
j'entends sur le téléphone.
Ça arrivera sur téléphone. Alors là, je reste très perplexe.
Mais du coup, peut-être que ça pourrait, peut-être qu'il y aurait un accessoire qui sort du port Lightning qui transforme en USB-C, qui permettrait de brancher un écran sur le téléphone aussi. Pourquoi pas c'est Samsung qui le fait déjà avec DeX et ça fonctionne pas mal. Évidemment, quand Apple fait un truc, il l'amène à un plus gros parc d'utilisateurs, peut-être. Bon, j'y crois pas trop à cette histoire de d'iPhone, mais ça pourrait être une première étape.
Ok.
Gaëlle est dubitative. Dubitative, mais elle est trop polie pour me dire que je dis des bêtises. C'est bien. On a des nouvelles sur la nouvelle Surface Go de Microsoft qui devrait arriver début mai et qui aurait en fait la grosse, c'est une mise à jour technique, la grosse différence c'est un écran un tout petit peu plus grand, donc des bordures, mais c'est la même taille de machine, des bordures d'écran un tout petit peu plus petites et des composants internes mis à jour. Et d'un autre côté, un autre truc au niveau matériel dont je voulais parler, c'est le dernier drone de DJI, le Mavic Air 2, qui peut prendre des photos avec un appareil photo de 48 mégapixels, un capteur de 48 mégapixels, donc il peut tourner en 4K 60 fps, ça c'était déjà possible, et il a 34 minutes d'autonomie en vol. Il sera disponible à partir du 11 mai pour $800. 34 minutes, ça commence à devenir très sérieux. 48 mégapixels, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup des drones qui avaient des appareils photo de ce type, mais ça commence à devenir sérieux aussi. Et 34 minutes, moi, dans mon esprit, je ne suis pas hyperactivement l'actualité des drones, mais j'étais resté à des drones qui avaient 10 minutes d'autonomie, on va dire. Bon, 10 minutes, tu as à peine le temps de t'envoler, de faire deux pirouettes, et puis tu dois te reposer. 34 minutes, ça commence à devenir vraiment substantiel, quoi. On a vraiment le temps de faire des choses, donc je suis content de voir que les drones continuent à évoluer. C'est un tout petit peu cher comme modèle, mais vu ce qu'il peut faire, je pense que les amateurs seront séduits. Enfin, avant de passer à nos sujets un petit peu plus sérieux, je voulais également donner des petits, comment dire, des ouvertures sur des choses un petit peu plus belles, plus poétiques. La première, c'est suite à l'un des atterrissages réussis de SpaceX, c'est le Falcon 9 qui s'est reposé encore une fois sur la Terre, enfin sur la mer, il y a quelques jours de ça, et j'ai un ami sur Twitter qui a tweeté en anglais « I still can't get over the fact that they shoot a rocket into space and it returns to Earth, landing on a barge floating in the middle of the ocean like it's no big deal. Donc, en français, ça donne « je ne reviens toujours pas du fait qu'on envoie une roquette, pas la salade, hein, une fusée dans l'espace, elle revient sur Terre et elle se pose sur une barge qui flotte au milieu de l'océan comme si de rien n'était et c'est devenu normal, quoi. » Et c'est vrai que, franchement, il y a des choses qui font rêver, même dans ces périodes troubles, comme la formule consacrée, comme la formule qui est devenue consacrée, mais je trouve ça toujours magique, quoi. On a des fusées qui s'envolent et qui se reposent verticalement sur des trucs au milieu de l'océan. C'est incroyable. Je trouve ça magique.
Et ça fait du bien. Je conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Effectivement, j'étais passée à côté de ça et en le voyant, enfin, c'est vrai que on est comme un enfant à regarder cette vidéo.
Ouais, c'est tout à fait magique et ça donne un petit peu d'espoir, ça fait un peu rêver. Et il y a un autre truc très poétique que j'ai vu sur Numérama, c'est un site web qui va s'autodétruire et auquel on peut envoyer des messages. C'est un site qui s'appelle, alors je crois qu'il s'appelle This Site Web Will Self-Destruct, et il va s'autodétruire dans je ne sais plus combien de temps, il a été lancé il y a quelques jours, il va durer je ne sais plus quelques semaines, quelques mois. Et il va s'autodétruire, il va s'effacer, et on peut envoyer un message à ce site. On a un petit champ de texte sur lequel on peut écrire un message, et on peut lire les messages qui sont anonymes, bien sûr, et on peut lire les messages que les gens ont envoyés. Et c'est hyper, enfin c'est rien du tout. Mais c'est hyper poétique, en fait. On envoie un message à un truc qui existe, dont on sait que c'est éphémère et qui va, entre guillemets, mourir, mais c'est qu'un site web. C'est bizarre, c'est étrange, c'est trucs qu'on peut trouver sur Internet. C'est une performance artistique, en fait, et ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes et on lit les messages qui sont envoyés de manière complètement anonyme. Il y a différentes initiatives de ce type qu'on a vues au cours des années, mais celle-là fonctionne vraiment. Il y a quelque chose de très poétique. C'est this website will self-destruct.com. Ça t'a plu, cette idée ou...
Ça m'a beaucoup plu. Ça n'existe que par ton existence. Et alors, ça va... Je suis désolée, c'est là où je rappelle mon âge dans ces cas-là quand je dis ce genre de choses, mais je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire sans fin.
L'histoire sans fin. Tu coupes un peu beaucoup, Gaëlle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais avec ton micro, ça coupe pas mal.
Je ne sais pas.
Vas-y, essaye de... Oui, vas-y. Continue, oui. Mais on changera de système si ça continue. Vas-y.
Ok. L'histoire sans fin, tu te souviens?
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Bah c'est la même histoire, en fait. Le monde, que parce qu'il le lit. Et s'il ne le lit pas, il s'autodétruit. Donc
oui.
C'est un peu le même, ça m'a rappelé ça.
J'ai ajouté ça, s'il n'y a pas de message pendant 24 heures, et ben le site s'autodétruit de toute façon. Donc, il y a 86 000 secondes. On va voir 86 000 divisé par 60, ça fait... Ah ben non, Quant ne peut pas me faire le calcul. Si, oui, mais ce n'est pas 86, c'est 86 000 divisé par 60, ça fait 1433 minutes. Si on divise ça encore par 60 pour voir en nombre d'heures, ça fait...
24,8.
Ah, ça fait que 24 heures encore ? C'est tout ? Ah oui, mais non. Ah d'accord, ok. Donc, il s'arrête... si jamais il ne reçoit pas de message, c'est pas qu'il a une... Je croyais qu'il avait une date de fin de toute façon, mais peut-être que c'est pas le cas en fait. Il faut
non,
continuer
non, moi, j'ai
à
compris
le faire
qu'il
exister.
S'arrête, exactement. Il n'existe que s'il reçoit un message au moins une fois toutes les 24 heures.
Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, moi, bah, écoute, moi je trouvais ça assez poétique s'il se détruisait lui-même tout seul, genre dans un an ou dans cinq ans, tu vois. Mais bon, ça c'est poétique aussi quand même, on va dire.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, voilà pour nos petits passages un petit peu beaux, un petit peu sympathiques. Maintenant, on va faire une petite pause pour vous remercier de nous suivre et de nous écouter et surtout de nous soutenir. Les différentes méthodes pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir fonctionnent bien, donc je vais vous les rappeler encore une fois. C'est si vous êtes en train de faire autre chose et que vous rentrez chez vous, bah quand vous mettez les clés dans votre petit bol à l'entrée, ça fait cling et là vous dites « Ah, merde, il fallait que je devienne patriote de Patrick ». Donc vous allez sur patreon.com, le lien est d'ailleurs dans les notes de l'émission, vous pourriez le faire pendant que vous êtes dans les transports ou même chez vous en train d'écouter. Maintenant, là tout de suite, vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigateur et taper patreon.com/rdvtech et aller dans le système et soutenir l'émission. Mais si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, eh ben, soit quand vous rentrez chez vous, soit je ne sais plus ce qui se passait, il y avait une histoire la semaine dernière où on doit enlever ses chaussures et si on n'enlève pas ses chaussures en rentrant chez soi, on se rend compte que c'est quand même un petit peu pas très propre. Mais du coup, on se dit « Ah merde, je n'ai pas enlevé mes chaussures. Ah bah du coup, pour compenser, je vais donner un petit peu de sous pour soutenir le Rendez-vous Tech. » Alors, si avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu qu'il faut devenir patriote du Rendez-vous Tech, franchement, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Hein. Voilà, patreon.com/rdvtech. Je vous remercie très chaleureusement de votre soutien et je vous félicite tous vous qui avez choisi de soutenir l'émission. Je le rappelle hein, quand même pour le principe, mais vous le savez, l'émission, comme tous les bons médias, qu'ils soient papier ou autres, bah, ça n'existe pas de la même manière si on ne paye pas quelque chose pour, d'une manière ou d'une autre, que ça soit par la redevance ou autrement. Un média qui repose entièrement sur la pub, il n'a pas le même type de contenu qu'un média qui est financé par les gens qui le consomment. Donc là encore, je vous encourage à soutenir l'émission. Kling Patrick, j'enlève pas mes chaussures, mais je vais quand même soutenir Patrick. En fait, toutes les excuses sont bonnes pour se dire qu'on doit aller soutenir le Rendez-vous Tech. C'est un petit peu ça, la leçon à retenir.
Patrick, bon. Si je peux me permettre, vu que t'es pas très bon en publicité, je n'adaptais pas ton message au timing. Donc, il faut qu'ils pensent à toi quand ils ouvrent la porte de leur frigo. T'auras plus de chance.
Mais c'est tellement malin, Gaël, merci. Donc, on ajoute à tout ça, quand vous ouvrez la porte du frigo pour aller prendre un petit verre de coca, un petit peu d'eau, ou même une bière, dites-vous, ah, moi, j'ai ma petite bière, peut-être qu'il faut payer une petite bière à Patrick, et donc patreon.com/rdvtech, à votre santé. Ça marche comme ça ? C'est bon, le message marketing ?
Voilà, c'est mieux, c'est plus adapté pour les temps en ce moment.
Donc, à votre santé. On va continuer avec les sujets un petit peu moins cool. On a d'abord Amazon qui peut vendre les produits high-tech, mais en gros, vous vous souvenez que Amazon a été contraint d'interrompre les livraisons par les entrepôts français. Eh bien, le tribunal a maintenu l'interdiction. Ils ont inclut plus de catégories de produits dans les catégories de première nécessité. En gros, il y a des choses comme la high-tech, l'informatique, le bureau, toutes ces choses qu'on utilise pour se faire livrer pendant qu'on est confiné, qu'ils ont inclus dans les catégories que Amazon peut livrer. Mais dans tous les cas, cette interdiction reste jusqu'à ce qu'Amazon ait mené les études nécessaires pour que le travail puisse reprendre dans leurs entrepôts. Donc, ils doivent faire des études qu'ils n'ont, d'après le tribunal, pas fait. Donc, évidemment, c'est important qu'ils le fassent. Facebook est en train d'essayer de concurrencer Zoom avec 60 000 offres différentes. C'est même un petit peu difficile à suivre. Il y a WhatsApp qui fait des conférences de groupe. Il y a Messenger Rooms qui fait des conférences de groupe. Enfin, il y a plein de trucs. Tout le monde se jette sur le marché des conférences en ligne, évidemment, avec webcam. Et puis, justement, ça m'amène à parler de la fatigue, la Zoom fatigue. C'est pas la Zumba fatigue, c'est la Zoom fatigue. Je sais pas pourquoi Zoom, ça me fait penser à Zumba à chaque fois, mais moi je suis pas assez en athlétique et en forme pour faire ce genre de choses, donc déjà si Zoom ça me fatigue, donc non, n'imaginez pas Patrick en train de danser la Zumba, c'est pas une bonne idée, vraiment, n'y pensez pas, arrêtez de réfléchir à ça.
Tu pourrais nous faire des mots.
Donc Zoom, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler au-delà du fait que Zoom se concentre sur la sécurité. Ils ont fait plein de changements, etc. Ils ont maintenant 300 millions d'utilisateurs quotidiens. Ils en avaient 200 millions il y a 3 semaines. En 3 semaines, ils sont passés de 200 à 300 millions. Donc vraiment, c'est la folie. Mais beaucoup de gens commencent à se rendre compte que, en fait, Zoom, d'une part, dans le monde du travail, il y a énormément de gens qui font des meetings pour un rien. Et qui, du coup, on doit être sur Zoom tout le temps. Et le problème, c'est que c'est pas comme un vrai meeting où on est en face des gens en physique. Au niveau, comment dire, au niveau physiologique, on n'arrive pas à lire les expressions des gens de la même manière. C'est arrangé de manière différente sur l'écran de ce que ça serait en physique. Donc, c'est plus fatigant pour l'esprit. On doit faire plus d'efforts. Donc, si vous vous rendez compte qu'un meeting sur Zoom vous fatigue plus qu'un meeting normal, déjà que les meetings normaux, ça peut être fatigant, c'est normal. Il faut y prêter plus attention, il faut faire plus d'efforts, on en a plus. Les gens commencent à se rendre compte, au-delà du fait que le confinement commence à affecter tout le monde, hein, je crois qu'on commence tous à être un petit peu fatigués, d'autant plus ceux qui ont des enfants, mais un petit peu tous. Et ça commence à se répandre un petit peu partout, cette idée. Je crois que on va assister, si le confinement continue encore longtemps, on va assister à une sorte de... Au début, c'était genre, bon, ok, allez, on va s'amuser, ça va être sympa et tout. Maintenant, c'est genre, c'est pas si facile que ça, quoi. Je sais pas si tu le constates, toi aussi, la Zoom fatigue, Gaëlle.
Alors déjà, enfin, j'ai pas envie de parler de Zoom fatigue, parce que je suis un peu... moi, je suis fatiguée. Personnellement, j'ai rien. J'utilisais Zoom avant tout ça. C'est juste de la vidéoconférence, hein, donc ça n'a rien à voir avec Zoom. Donc,
t'as coupé un petit peu, tu disais que t'es fatigué de quoi ? Je suis désolé, hein, c'est des arrangements petit peu différents avec le confinement. Hein, donc, problème technique, mais tu disais que t'es fatigué de quoi spécifiquement ?
Du Zoom bashing.
Ah, d'accord.
Mais je trouve que c'est, oui, les vidéoconférences, ça ne rime à rien. Quand tu travailles, effectivement, tu peux travailler en conférence audio sans avoir la vidéo, c'est plus facile, je trouve, parce que tu es moins à te demander quelle tête tu as par rapport à tes collègues. Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire juste des conférences audio, ça fonctionne bien mieux que de la vidéo. Mmh. Et la vidéo, on la garde juste pour sa famille, éventuellement. Voilà, et nous, effectivement, je ne suis pas fatiguée parce que je l'utilise assez... Enfin voilà, la vidéo, je la conserve que pour les liens familiaux. Et quand c'est du travail, j'évite la vidéoconférence, je fais que de l'audioconférence.
Ouais, je comprends. Moi, c'est un truc que je pourrais recommander aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur que s'il n'y a pas la vidéo, du coup, les gens ne vont pas suivre. Je pense que c'est une crainte qui n'est pas forcément fondée. Et si c'est le cas, je dirais que c'est peut-être des meetings dans lesquels ils n'ont pas forcément besoin d'être. Tu sais, les meetings de une heure où tu as 40 personnes qui chacune doivent dire 3 mots. Alors 40, j'exagère, mais genre 15 personnes. Et où tout le monde se sent l'obligation de dire un truc parce que sinon, on va penser que tu fais rien. C'est oui, bon, bref, je les ai connus aussi. Bon, voilà pour ce petit résumé. On va conclure avec le point sur le traçage et sur l'app Covid, Stop Covid, que la France doit lancer dans quelques semaines. Alors, vous vous souvenez, j'ai beaucoup parlé des apps de traçage et dans l'ensemble, j'avais plutôt des bonnes choses à en dire. La semaine dernière, en fin d'émission, enfin des bonnes choses sur le principe et le respect de la vie privée. Sur l'efficacité, c'est un autre problème, mais on va peut-être en reparler dans un moment, mais jusqu'à la fin du dernier épisode où on a eu des détails vraiment dans les dernières minutes de l'épisode, on a eu des détails sur le système que compte utiliser l'Union européenne slash la France, qui est plus centralisé que le système préconisé par Apple et Google. Et alors, dans l'épisode précédent, je disais « Oula, il va falloir que je regarde ça d'un petit peu plus près ». J'ai regardé, je vais vous livrer mes conclusions là tout de suite. Avant, je vais quand même vous dire, il y a l'allocution d'Édouard Philippe, notre Premier ministre français, qui a lieu dans 2 heures à peine, au moment où on enregistre ça. Il est peu probable qu'il chamboule tout sur la question de l'app Stop Covid. Mais c'est toujours possible, donc c'est peu probable, donc je vais quand même faire mon laïus maintenant, mais si jamais on a de nouvelles informations, évidemment je vous en reparlerai en temps et en heure. Donc pour ce dont je parlais sur la centralisation dans l'épisode précédent, c'est la première préoccupation, ou en tout cas, jusqu'à il y a quelques jours, c'était la première préoccupation pour les auditeurs et les fans de tech, c'est est-ce que ça va protéger notre vie privée ? Alors, il se trouve que cette centralisation, en fait, n'est pas un gros problème si c'est fait comme ils le décrivent. Et du coup, il faut bien sûr savoir comment sont gérés les serveurs centralisés. Il faut noter que même dans le cas des autres solutions qui sont entre guillemets plus décentralisées, il y a quand même une composante centralisée qui vous permet de réunir, d'envoyer les clés des personnes, les codes des personnes qui ont été infectées. Là, il y a un système qui est un peu plus centralisé, qui repère lui-même à qui correspondent les personnes qui ont été en contact avec des personnes qui ont été infectées. Mais tout ça est vraiment anonymisé et chiffré. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, ça devrait fonctionner à condition, bien sûr, là la condition est un peu plus importante encore que ce qu'on avait avec l'autre système, à condition que les systèmes soient ouverts, les sources soient disponibles et lisibles, donc qu'on soit en open source et qu'on puisse vérifier ce que font ces applications et ce que font les serveurs avec ces données. Donc, mais le système tel qu'il est décrit devrait permettre de conserver, en gros, l'anonymat. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Et il y a, si certains d'entre vous se demandent pourquoi on opterait pour un système centralisé plutôt que décentralisé, on va dire ça peut permettre de mieux contrôler qui a été infecté et qui a été en contact avec qui. C'est un petit peu plus précis, on va dire. Donc, on passe au niveau du respect de la vie privée, absolument aucun problème pour le système plus décentralisé promu par Apple et Google et les autres chercheurs, à un système qui est, oui, ça devrait vraiment, ça va. Dans aucun des cas, ça ne lève de drapeau vraiment préoccupant pour moi, en tout cas, pour l'analyse que j'en fais. Maintenant, les choses un petit peu plus importantes. Alors, d'une part, vous avez peut-être vu des chercheurs de l'INRIA, du CNRS, qui ont signé une lettre ouverte pour dire « Attention, ces systèmes, en parlant de Stop Covid spécifiquement, mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas forcément exactement le cas, ces systèmes sont dangereux, il n'y a pas vraiment d'anonymat dans ces cas-là. » Et ils ont détaillé plusieurs exemples de situations où on pourrait utiliser les systèmes pour lever l'anonymat, en fait. Et si ce sont des systèmes qui sont théoriquement possibles, techniquement possibles, on est dans des cas, à mon avis, dans des cas tellement extrêmes qu'on est dans des situations où ce sont des chercheurs en sécurité qui sont entraînés à voir le moindre problème possible théorique qui ne pense pas à des questions pratiques. Un exemple, je vais vous donner un exemple. L'exemple, un des nombreux exemples qu'il donne, c'est si jamais un employeur veut savoir si un futur employé va tomber malade, attraper le Covid-19. Il est possible de, pendant l'entretien d'embauche de cet employé, allumer un téléphone, un seul téléphone qui sera dédié à cet employé, avoir les échanges de codes qui se feront, et si jamais cette personne tombe malade, eh ben on recevra, et bien sûr, après l'entretien, on éteint le téléphone en question, hein, pour ne pas qu'il capte les données d'autres personnes. Donc, en gros, on aura uniquement les données de cette personne pour laquelle on a fait un entretien d'embauche dans ce téléphone, les données d'échange Bluetooth de contact. Donc, si l'employé potentiel tombe malade, eh ben on recevra une alerte sur ce téléphone-là, pour nous signaler qu'on a possiblement été en contact avec une personne malade. Comme le téléphone n'a été en contact qu'avec cette personne-là, eh ben on saura que c'est elle qui est tombée malade. Alors, oui, en théorie, oui, c'est tout à fait possible. Mais d'une part, ce système est tout aussi, fonctionne tout aussi bien avec le système de l'État et avec les systèmes plus décentralisés comme celui d'Apple, Google, slash les chercheurs européens. Donc, ce n'est pas uniquement contre le stop Covid, c'est tous les systèmes de traçage qui seraient utilisables avec cette faille, on va dire. Et d'autre part, et tous les exemples sont de cet acabit, on va dire. C'est des trucs qui sont, franchement, pour qu'un employeur aille, fasse tout ça pour repérer si un candidat qui lui plaît, a priori, qui voudrait potentiellement engager, va tomber malade et on a 15 jours de données, parce qu'après les 15 jours, les données ne sont plus valides. Donc, on a juste 15 jours de données où on va savoir que la personne est malade et du coup, quoi ? La personne a eu le Covid-19, elle est isolée pendant 15-20 jours, un mois, et après, elle n'est plus malade. Donc, la personne reste qui elle est. On ne va plus l'engager pour cette raison. Enfin, franchement, c'est des failles vraiment hyper théoriques, à mon sens. Et vous avez peut-être vu ces exemples courir, ou cette alerte courir. Pour moi, elle n'a pas lieu d'être dans le monde réel. C'est quelque chose de purement théorique. Et si jamais, si c'est ça notre plus gros problème avec ces apps, c'est pas vraiment un problème. Mais ça a quand même posé un peu de confusion parce que ce sont des chercheurs de l'INRIA et du CNRS, qui sont des gens sérieux, qui lèvent ces alertes. Donc, évidemment, certains se posent des questions. Pour moi, c'est des gens qui sont tellement entraînés à voir ces problèmes qu'ils sont un petit peu obsédés par les choses et même si elles sont réelles, dans la pratique, bon, ok. Ensuite, chacun peut se faire son avis sur ça. Le plus gros problème, en fait, qu'on a, qui là n'existait pas il y a une semaine, qui est sorti de nulle part il y a environ une semaine, c'est un truc beaucoup plus ennuyeux pour cette app. Pour une raison que je ne m'explique absolument pas, Apple a décidé de se... Pardon, pas Apple, mais le gouvernement français a décidé de se braquer sur la solution centralisée. La solution centralisée n'est pas possible à mettre en place avec le système que proposent Apple et Google. Pour des raisons de sécurité accrue, en fait, le système centralisé associe une ID, une idée, un code centralisé au code qu'on va distribuer aux autres téléphones. Donc, il y a quand même une anonymisation, mais on a la main sur un petit peu plus de données, même si elles sont anonymes. Et c'est un truc qu'Apple n'a pas mis en place, Apple et Google ne l'ont pas mis en place pour vraiment satisfaire à 100% la question de l'anonymat maximum. Ils ont d'ailleurs modifié un petit peu leur système qui va être implémenté là dans les jours qui viennent et ils l'ont amélioré pour mettre une cryptographie un petit peu différente qui est aussi forte ou plus forte et qui consomme moins. Enfin bref, il y a des petits changements. Mais le système n'est pas compatible avec le système décrit par l'Union européenne, contrairement à ce que je pensais à l'origine, à cause de cette composante centralisée. Dans ce contexte, l'Allemagne a décidé d'abandonner l'idée du système centralisé européen pour utiliser le système décentralisé, je dis décentralisé par principe, mais il y a quand même, comme je le disais, une petite composante centralisée. Hein, mais... Donc, ils ont décidé d'abandonner ce système centralisé pour adopter le système décentralisé d'Apple et Google. Ils ont été pratiques, ils ne se sont pas braqués, et ils se sont dit, bon, bah, on va faire notre app, on va utiliser ce qui est disponible. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir implémenter ce système, du coup, comme il est différent, qu'il n'est pas fourni par les OS, eh bien, il faut demander une dérogation à Apple sur l'utilisation du Bluetooth quand l'application n'est pas active. C'est-à-dire que, en temps normal, les applications qui ne sont pas affichées sur votre écran, sur les téléphones Apple en particulier, Android aussi sur les dernières versions, il faut leur donner l'autorisation d'utiliser le Bluetooth et dans tous les cas, ils ne peuvent pas utiliser le Bluetooth quand l'application n'est pas active. Pourquoi ? Parce que si elles ont le droit d'utiliser le Bluetooth, et ben comme c'est des identifiants uniques qu'on envoie par Bluetooth et ils peuvent utiliser leurs propres identifiants, ça permet de faire du traquage, bien sûr pour la pub, beaucoup, mais en général, n'importe quel type de traquage. Et donc, Apple et Google, depuis un moment, sont très prudents avec ça et n'autorisent pas l'accès au Bluetooth. Apple a d'ailleurs résisté à des demandes, pas forcément sur le Bluetooth, mais les demandes du FBI pour des questions de pouvoir rentrer dans le téléphone. Et ils ont beaucoup résisté pour protéger justement la vie privée des utilisateurs. On en avait parlé dans l'émission. Or, la France ayant besoin d'un système différent, ils ont besoin d'avoir accès au Bluetooth en permanence, même quand l'application n'est pas lancée. Parce que bien sûr, les utilisateurs de l'app Stop Covid ne vont pas se balader tout le temps dans la rue avec leur téléphone allumé, avec l'écran allumé et l'app en plein écran. Parce que c'est juste, évidemment, c'est pas possible. Donc, ils ont demandé à Apple et ils ont reconfirmé aujourd'hui, par la voix de Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique, ils ont reconfirmé qu'ils demandaient à Apple un passe-droit sur cette histoire de Bluetooth et qu'ils voudraient, pour l'application Stop Covid, l'autorisation d'utiliser le Bluetooth, alors qu'aucune autre application dans le monde n'a le droit et que Apple et Google ont conçu un système justement pour faire ce genre de choses, mais plus respectueux de la vie privée. Et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français s'est braqué de la sorte sur ce système. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être dans l'Union européenne, qui a décidé, peut-être un petit peu, je ne vais pas dire obtus, mais qui a décidé que le système centralisé était plus précis. Et effectivement, il est un peu plus précis, il permet de faire un petit peu plus de choses. Mais ce n'est pas le jour et la nuit, ce n'est pas que tout à coup le système plus décentralisé, préconisé par Apple et Google, ne permet de rien faire. Mais peut-être qu'il y a une personne qui a dit non, c'est comme ça qu'il faut faire, on ne va pas se laisser emmerder par Apple et Google. Peut-être que dans le gouvernement, il y a quelqu'un qui a décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est vraiment un braquage à ce niveau. Ou alors, peut-être que le gouvernement se dit de toute façon, l'application, on n'est pas certain qu'elle apporterait énormément. Comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, et certains me l'ont reproché d'ailleurs, je résume en un mot, les applications en question, même si elles sont déployées et qu'elles fonctionnent comme elles devraient fonctionner, il y a tout un tas de barrières qui font qu'on craint un fonctionnement qui soit limité, une efficacité, on va dire, qui soit limitée au mieux. C'est mieux que rien, mais ça change pas la face du monde là non plus. Eh bien, peut-être que le gouvernement se dit bon, c'est une occasion de faire un bras de fer avec Apple et de montrer qu'il ne coopère pas. Donc, une sorte de geste politique. Mais je ne sais pas si c'est ce combat-là qu'il faut lancer maintenant, si c'est le moment, si c'est justifié. Je ne comprends pas. Je suis surpris et comment dire. Vous confus, voilà. C'est peut-être comme ça qu'on peut le dire. Je vois pas pourquoi. Je trouve ça incohérent et je ne comprends pas pourquoi ils essayent de lancer un combat avec Apple aujourd'hui qu'ils savent qu'ils vont perdre. Parce que Apple, comme je le disais, a résisté au FBI à des moments où la pression était beaucoup plus grande et où il n'y avait pas d'alternative proposée par Apple. Là, on a une alternative qui est universelle, unique, standardisée, approuvée par la plupart des chercheurs en sécurité. Voilà, c'est le résumé. C'est mon résumé.
Là, ça finit par...
ouais, non mais c'est ça. Ça finit par... je vois pas. Donc, je ne sais pas s'il y a grand-chose à ajouter là-dessus. Hein. Peut-être qu'on aura les réponses de cette décision dans quelques jours ou quelques mois. Peut-être que le gouvernement voulait lancer la bataille et puis finalement va se ranger au système existant. Peut-être pas. Là, visiblement, il semble dire que non. Mais du coup, elle ne va pas exister, l'app. Parce que, croyez-moi, Apple ne va pas céder au gouvernement. C'est impossible. Ils ne vont pas autoriser l'application Stop Covid à utiliser le Bluetooth parce que s'ils ouvrent cette porte, là pour le coup, même moi je dirais il ne faut pas, parce que si cette porte est ouverte, c'est difficile de la refermer ensuite. N'importe quelle, on pourra dire vous avez donné l'autorisation à la France pour cette app, donc on voudrait le faire pour une autre app dans tel autre pays ou pour d'autres utilisations. Autant, vous vous souvenez, et j'essaye toujours c'est ce que je répète depuis le début de toute cette histoire, je regarde chaque situation de manière aussi objective que possible en fonction du contexte dans lequel on est. Je vous ai dit depuis le début que les systèmes décrits pour ces apps de traçage étaient satisfaisantes au niveau de la protection de la vie privée et que donc je ne voyais pas de problème à les implémenter. Là, j'ai un gros problème avec l'idée de donner un passe-droit au gouvernement pour cette app-là. Pas parce que je pense que pour cette app spécifiquement, ça pourrait même être fait de manière acceptable au niveau de la protection de la vie privée, mais le précédent serait trop dangereux. Donc là, je dirais, je ne veux pas qu'Apple et Google cèdent à la demande du gouvernement français, ce qui est quand même une sorte de première. C'est marrant de voir que c'est Apple et Google qui se posent en défenseurs de notre vie privée aujourd'hui. Donc voilà, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai déjà fait assez long comme monologue, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Gaëlle.
Alors allez, je vais quand même le partager, mais ça pourrait aussi être un geste politique, comme tu le dis, pour justement ne pas déployer Stop Covid, tout simplement.
Bah, le fait de ne pas la déployer, je ne suis pas certain de l'avantage que ça aurait.
Ils s'aperçoivent que ça crée quand même beaucoup de... que je pense que dans l'urgence, aussi rapidement, on pose quand même...
Est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? Je me demande si c'est pas le limiteur de bruit qui... Ouais. Ouais, parle plus fort, je crois que ça coupera moins.
Alors, je disais en fait tout simplement parce que il se négatif et la pratique d'exécution faire quelque chose aussi rapidement.
Ça coupe toujours. On entend un mot sur deux de ce que tu dis, Gaël. Je suis désolé. Allez, réessaye encore une fois.
Non, mais le gouvernement ne veut pas que je parle.
Clairement. Non, mais je veux entendre ce que tu as à dire quand même, donc essayons encore une fois, allez.
Je réessaye. Je pense de manière aussi, étant donné la faille de sécurité qu'il pourrait y avoir en termes d'exécution, de le faire dans l'urgence, ils savent que c'est, ils risquent d'y avoir des effets quand même négatifs qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est pour ça que moi d'ailleurs je suis contre le fait de sortir une application aussi vite sans avoir eu le temps de vérifier toutes les vérifications qu'il doit y avoir. Et ça leur donne une marge de manœuvre pour pousser ou en tout cas annuler le stop Covid.
Ouais, moi ça me paraît bizarre. Hein. Vraiment le fait, enfin ils se mettent dans une position qui est une position de faiblesse, parce que s'ils doivent dire ah bah c'est la faute d'Apple, on n'a pas pu faire le stop Covid, alors que tout le monde sait qu'il y a un autre protocole qui fonctionne auquel se range l'Allemagne. Alors l'Angleterre visiblement est en train de dire nous on va faire avec la NHS un système centralisé. Je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'on a le même problème qu'en France, mais alors, il y a d'autres... Et le plus gros problème, comme je le dis à chaque fois, on voit à Singapour, il y a genre 20 à 25% des gens qui ont téléchargé l'app. Sur la base du volontariat, ça ne fonctionne pas. Et il faut au moins 60% de gens pour que ça soit... On commence à voir les effets. Et ça serait un moyen... Enfin, ils pourraient dire, bah, écoutez, on a vu qu'il n'y a pas assez de gens qui l'installent, donc ce n'est pas efficace. Enfin, pour moi, c'est tout autant un échec, voire plus un échec, de dire... On a fait un bras de fer avec Apple et on a perdu. Ils repartent la queue entre les jambes. Là, je ne vois pas la logique politique de la chose. Parce que si encore tu te dis les gens vont penser que c'est Apple les grands méchants, peut-être. Mais là, je ne vois pas. Ou peut-être que je me mets le doigt dans l'œil et que c'est uniquement les gens qui connaissent les problèmes techniques et technologiques qui vont comprendre que Apple et Google proposent une autre solution qui est préférable potentiellement ou qui est en tout cas disponible. Et que le grand public dira, bah oui, c'est Apple qui a encore fait un truc méchant. Mais je crois pas, moi, j'y crois pas à ce scénario. C'est le gouvernement qui va en ressortir affecté
et
négativement.
S'ils sortent une application qui se retrouve avec des...
Qui se retrouve avec des... Ça a coupé une application qui se retrouve avec des... J'essaye de décoder ce que tu dis.
Piraté ou...
Non, mais non, ça franchement, l'hypothèse de « Ah, l'application est développée à la va-vite, machin », j'y crois pas. On a des gens qui sont très doués dans ce qu'ils font, l'application n'est pas horriblement compliquée, c'est pas un système qui est très très compliqué à coder, c'est un truc qu'il faut bien faire, mais s'ils mettent ça en open source, que la communauté de la sécurité peut vérifier comment elle est écrite, je crois pas à ces idées. On entend beaucoup de choses, et franchement, vous le voyez là, c'est clairement une erreur de la part du gouvernement, j'hésite pas à dire quand je pense qu'ils font des erreurs, il y aura certainement des erreurs qui seront notées quand on fera les comptes dans quelques temps après quand la crise sera passée. Mais là, cette histoire de l'application est développée à la va-vite, c'est pas pour un problème de développement, c'est un problème pour savoir est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle va servir à quelque chose, est-ce qu'on y met ce qu'il faut, mais je suis sûr que les développeurs peuvent faire ce qu'on est censé faire avec l'app. Pour moi, c'est pas un problème de ce type-là. Et d'autant plus que les systèmes, à la fois le système d'Apple et le système préconisé par l'Union européenne, sont tout à fait sécurisés au niveau de l'anonymat. Même s'il y a un leak, à moins qu'il fasse n'importe quoi avec l'application, et ça c'est possible dans les deux systèmes, hein, et c'est pour ça qu'il faut avoir toutes les composantes des applications en open source lisibles par la communauté extérieure, mais à moins qu'il fasse n'importe quoi, il est... Enfin, vraiment inconcevable, j'essaye d'être prudent, le risque est tellement infinitésimal que c'est comme se dire, bon, bah, je vais pas sortir dans la rue parce que j'ai une chance qu'une brique me tombe sur la tête aujourd'hui, tu vois. C'est ce type de probabilité, j'exagère, mais à peine, où je vais pas prendre ma voiture parce que je risque d'avoir un accident. Donc, pour moi, il est pas là le problème, mais bon, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas la science infuse non plus, mais... Bon, ok, écoutez, je crois que...
Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave.
C'est pas la première fois.
Faisons court.
Ouais, bah on est déjà à une heure, écoute, donc on va se limiter à une heure et on conclut avec le... Voilà, c'est ça, comme le dit mon fils de 2 ans, c'est ma conclusion. Il me dit
je rejoins cette conclusion.
Il me dit de temps en temps, maintenant il commence à parler pas mal et tout, et de temps en temps il me dit hey, « Eh papa, est-ce que tu peux dire le lait ?» Alors je dis « Oui, le lait. Hey, »« Eh papa, est-ce que tu peux dire la voiture ?» La voiture. « Eh papa, est-ce que tu peux dire... » Et il se marre comme un fou. Il a trouvé une astuce hyper maligne. Il le dit en suédois, hein, bien sûr, parce qu'il parle plutôt suédois, mais c'est très, très mignon. Mon fils est mignon, je ne sais pas si vous saviez. Mon fils est très mignon. Donc, voilà, je vous laisse avec sa sagesse. Voilà. Merci, Gaëlle, d'avoir été là, malgré les difficultés techniques pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Oui, on peut me retrouver sur
tous les réseaux sociaux, je mettrai les liens dans...
@coud_fr, voilà.
@coud_fr pour la boîte, et je mettrai les liens vers ton Twitter dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aller sur Instagram pour voir ce qui s'y passe, c'est sympathique, bien sûr. NotePatrick, effectivement, et puis vous pouvez aller sur frenchspin.fr pour avoir les notes de l'émission et commenter si vous avez des choses à dire, des éclairages à apporter sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et puis, vous pouvez évidemment aller sur patreon.com pour soutenir l'émission. Le prix d'un petit café, le prix d'une petite bière, c'est hyper sympathique. C'est hyper utile surtout. Donc, un grand merci à vous tous. Patreon.com/RDVTech. Ça se fait en 2 minutes. Vraiment, même sur votre téléphone mobile, vous pouvez le faire en 2 minutes. Et ça aide énormément l'émission. C'est grâce à ça qu'elle existe. Je vous fais de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.